Donc, comme on l'avait prévu, je vais vous faire une petite allocution avant l'apéritif et le repas. Voilà. Lutte ouvrière présentera notre camarade Nathalie Arthaud à l'élection présidentielle. Elle défendra le camp des travailleurs, à la différence des principaux candidats qui défendent les intérêts de la France ou des Français. Elle mettra en avant les intérêts des ouvriers, des employés, les intérêts des travailleurs condamnés au chômage et au petit boulot. Quand on appartient au monde du travail, voter pour Le Pen, Fillon, Macron ou le candidat qui sortira de la primaire du PS ce soir, c'est voter contre son camp et contre ses intérêts. C'est tendre le bâton pour se faire battre, parce qu'ils aspirent tous à gouverner pour le compte de la bourgeoisie. Ils sont socialement étrangers à la classe ouvrière et malgré leur discours hypocrite en période électorale, ils lui sont hostiles. Alors du côté de la droite, Fillon vise les voix de la France et des beaux quartiers et il a le mérite, si l'on peut dire, d'annoncer la couleur. S'il est élu, ça sera la loi El Khomri puissance 10, la fin de la sécurité sociale, la suppression de centaines de milliers de postes de fonctionnaires. Bon, je ne dirai rien sur les histoires avec sa femme Pénélope parce que, voilà, ça en dit long aussi. Mais regardez du côté du PS, comment ils cherchent encore à nous balader. Pendant ces 5 dernières années, ils ont fait reculer l'âge de la retraite, ils ont augmenté la TVA, aidé le grand patronat à baisser les salaires et augmenter le temps de travail. Ils les ont aidés aussi à licencier. Et lorsque les travailleurs se sont battus contre les fermetures d'usines et les plans de suppression d'emplois, comme à PSA Aulnay, Goodyear, Air France ou contre la loi El Khomri, on a tous entendu ces candidats traiter ces travailleurs comme des délinquants et des voyous. Et voilà maintenant qu'ils nous parlent de justice sociale. Ils font même semblant de redécouvrir l'existence des ouvriers et de nos problèmes de salaire. Hamon nous parle du revenu universel, Valls d'un revenu décent. En réalité, il prévoit juste de jeter une petite pièce aux plus pauvres. Alors qu'il n'y a jamais eu autant de milliardaires en France, la plupart des grandes entreprises affichent des bénéfices records. Les seules entreprises du CAC 40 ont distribué 56 milliards de dividendes à leurs actionnaires en 2016. La fortune d'un Bernard Arnault, le patron de LVMH, a augmenté de 7 milliards d'euros en une seule année. Alors, on ne veut plus de leur boniment et de leur charité. Ce que nous voulons, c'est avoir un travail, un salaire, le droit d'être soigné, le droit d'être logé dignement, le droit pour nos enfants à une bonne éducation et d'avoir une retraite décente. Le Pen, de son côté, parce qu'elle n'a jamais gouverné, n'a pas le passif politique d'un Valls ou d'un Fillon. Mais ceux qui, parmi les travailleurs, se disent que peut-être Le Pen ferait différemment de tous ses politiciens se trompent. Le Pen est une candidate bourgeoise attachée à l'ordre capitaliste. Comme les autres, elle reprend tous les mensonges patronaux en expliquant qu'il faut baisser le coût du travail, baisser les dépenses publiques, améliorer la compétitivité, tout en affirmant, comme les autres, qu'il n'y a pas, il n'y a aucune opposition entre les entrepreneurs et les salariés. Le Pen, au mieux, c'est notre Donald Trump. Elle se déguise en candidate anti-système pour en fait prendre la tête de ce système. Et pour plaire aux classes populaires, elle verse des larmes de crocodile sur les chômeurs, à condition bien sûr qu'ils soient français. C'est une démagogue qui se sert des préjugés racistes et xénophobes et les alimente pour ne pas dénoncer les véritables responsables du recul de la condition ouvrière. Le Pen s'indigne que l'on donne 11 euros par jour à un demandeur d'asile. Mais elle ne s'indigne pas qu'un PDG comme Carlos Ghosn gagne 45 000 euros par jour, qu'une Bettencourt empoche 1 million par jour sans rien faire. Elle s'indigne que l'aide médicale d'État avec laquelle des femmes et des hommes qui n'ont pas de papier sont soignés. Mais que les trusts pharmaceutiques comme Sanofi réalisent 7 milliards de profits et pillent la sécurité sociale, ça ne la gêne pas parce qu'elle est dans le camp des plus riches. Le Pen, Fillon, Valls ou Hamon sont en rivalité, mais uniquement pour aller à la mangeoire, ils se préparent tous à servir la bourgeoisie. À l'opposé, Nathalie Arthaud est candidate pour les dénoncer et combattre les Bettencourt, Dassault, Peugeot, Michelin, parce que leur prospérité se fait sur notre dos. Parce que plus d'argent pour le patronat, c'est moins d'argent pour les travailleurs. Parce que c'est notre salaire ou leur fortune, parce que c'est nos emplois ou leurs profits. Il n'y a pas d'entre-deux, il faut choisir son camp. Celui du grand capital ou celui des travailleurs. Nous nous présentons pour faire entendre les intérêts des exploités. Et il ne s'agit pas simplement des travailleurs français, je le précise, parce que dans ces élections, la démagogie nationaliste empoisonne tous les débats. C'est une spécialité de Le Pen qui oppose systématiquement les travailleurs les uns aux autres en fonction de leur nationalité et de leur religion, sème la haine et le rejet de l'autre en favorisant le repli communautaire. Il faut s'y opposer. et de la seule façon possible, au nom de l'idée que nous nous faisons tous partie d'un même camp, le camp des travailleurs. Parce que nous avons des intérêts communs, par-delà la diversité de nos métiers, de nos origines, de nos statuts. On nous rabâche que notre identité dépend de notre origine, de notre nationalité ou de notre religion. Mais l'aspect essentiel de notre vie et de notre identité, c'est que nous sommes des ouvriers, des employés, des enseignants. Alors il faut rejeter ceux qui veulent dresser des murs entre nous et affirmer notre conscience d'appartenir à une seule et même communauté, celle des travailleurs et des exploités. C'est pourquoi, dans ces élections, ce qui a le plus utile à faire, c'est de faire entendre nos intérêts de classe à l'opposé de la politique patronale et affirmer nos revendications en tant qu'exploités. Parce que sur le fond, dans ces élections, les jeux sont faits. Tous ceux qui sont susceptibles d'accéder au second tour sont des serviteurs zélés de la bourgeoisie. Alors, il n'y a pas de suspense. Celui qui sortira des unes en mai sera forcément un ennemi des travailleurs. Pour notre classe sociale, le match est truqué. Il ne faut pas marcher dans cette duperie électorale. Mais puisqu'on nous donne la parole au premier tour, eh bien il faut la prendre pour s'exprimer, pour mettre en avant nos préoccupations. Ne laissons pas le monopole de la parole à des politiciens bourgeois qui pensent en bourgeois. Faisons-nous entendre. Nous avons notre propre politique à défendre, une politique indépendante, une politique de classe avec un programme pour les travailleurs. Le premier point de ce programme, c'est d'éradiquer le chômage. Le patronat et à sa suite tous les politiciens prétendent que l'on ne peut pas faire tourner une usine sans commande assurée et garantie. Nous, travailleurs, nous devons affirmer qu'on ne peut pas vivre sans travail garanti et que notre vie ne peut pas dépendre des aléas de leur carnet de commandes. Nous ne sommes pas des machines que l'on peut brancher ou débrancher. Nous avons des loyers, des factures qui tombent tous les mois, une famille, une vie. La première mesure de bon sens est de commencer par interdire les licenciements et les plans de suppression d'emplois. Tout d'abord dans les entreprises qui font des bénéfices et sous peine d'expropriation. Prenons l'exemple de PSA, qui a réalisé 2,4 milliards de bénéfices en un an et demi et a supprimé 17 000 emplois en 3 ans. Sanofi, qui réalise 7 à 8 milliards de profits chaque année et qui, lui, a supprimé 4 700 emplois de 2008 à 2015. Eh bien, il faut commencer par stopper ces grands fabricants de chômeurs. Je n'oublie pas, bien sûr, les salariés des plus petites entreprises, et la liste est longue, qui sont aussi concernés par les licenciements, d'autant que leur situation dépend bien souvent de ces grands groupes. Parallèlement, il faut aussi créer des millions d'emplois pour tous ceux qui n'ont droit qu'à quelques heures de boulot, pour tous ceux qui sont rejetés de la production parce qu'ils sont invalides ou handicapés. C'est possible immédiatement en imposant que le travail soit réparti entre tous. C'est une mesure nécessaire pour l'ensemble du monde du travail. Parce que dans presque toutes les entreprises, privées et publiques, la charge de temps de travail ont augmenté. Il faut faire rigoureusement l'inverse en créant de vrais emplois avec des salaires complets. Il faut faire le contraire de ce que font PSA et Renault en imposant des accords de compétitivité avec heures supplémentaires et samedis travaillés obligatoires. Si nous laissons faire le grand patronat, ce n'est pas 6 millions de chômeurs qu'il y aura, mais bientôt 7 ou 8. La répartition du travail entre tous et la réduction du temps de travail sont des objectifs nécessaires pour les travailleurs, parce que le chômage est un fléau qui pourrit la société de l'intérieur. Il aggrave la misère, il marginalise, il pousse à l'individualisme. C'est aussi de là que naît la peur de l'autre et la déshumanisation de la société. La lutte contre le chômage est une des conditions de survie de notre société. Alors les principaux candidats qui se voient tous déjà à l'Élysée affirme qu'il est impossible pour les entreprises d'augmenter le SMIC. Le Pen explique, je la cite, qu'elle n'a jamais proposé une augmentation de SMIC payée par les entreprises, car elle ne veut surtout pas créer de difficultés au patronat. Mais les difficultés qu'ont des millions de femmes et d'hommes à se loger, à se soigner ou tout simplement à se nourrir, elles n'existent pas. Ces difficultés, Le Pen et tous les autres candidats s'en moquent, et bien pas nous. La CGT de la métallurgie chiffre à 1 800 euros le salaire minimum qui serait aujourd'hui nécessaire pour vivre convenablement. Rappelons que la moitié des salariés gagnent moins de 1 800 euros dans ce pays. Eh bien oui, aucun salaire ne devrait être inférieur à cette somme et il faudrait augmenter les salaires d'au moins 300 euros. Ce ne serait d'ailleurs que du rattrapage après des décennies de blocage salarial qui a démoli progressivement le pouvoir d'achat. Des bonnes âmes, très bien payées, prétendent qu'augmenter les salaires est utopique et que cela forcerait nombre d'entreprises à mettre la clé sous la porte. Nous parlons de 1 800 euros par mois et on nous parle d'utopie. Cela serait donc de l'utopie d'espérer vivre sans avoir à compter le moindre euro. Eh bien, si pour eux c'est de l'utopie, si ce n'est pas imagida dans le cadre de leur système, c'est donc l'aveu qu'en dehors du renversement de cette économie capitaliste, il n'y aura pas de salut pour les travailleurs. Mais curieusement, les mêmes qui parlent d'utopie, dès que l'on parle du salaire des travailleurs, ne s'indignent pas des augmentations extravagantes des Carlos Ghosn, des Tavares, des PDG de ces grandes entreprises, ni même des hausses des dividendes des actionnaires du CAC 40. Alors dire que 1 800 euros, c'est l'utopie, c'est un choix de classe. La seule utopie qu'il pourrait y avoir, ce serait d'attendre ces augmentations des patrons ou d'un futur président de la République. Car pour y parvenir, il faudra renouer avec les luttes collectives et imposer un nouveau rapport de force au patronat. Je l'ai dit, la société est riche, très riche. Et la seule solution sera de prendre l'argent nécessaire sur les profits des entreprises, sur les dividendes distribués aux actionnaires et aux besoins sur leur fortune personnelle accumulée sur le dos des salariés. C'est la raison pour laquelle les travailleurs doivent imposer la transparence sur les comptes des entreprises. Le grand patronat a érigé le mensonge et l'opacité en art de gouverner. Et même s'il est de bon ton pour les politiciens de parler de l'évasion fiscale, ils continuent à défendre le secret des affaires et d'interdire aux salariés de divulguer les informations dont ils disposent. En avril dernier, les députés européens du PS, de la droite, du Front national se sont retrouvés tous ensemble pour voter la directive européenne sur la protection du secret des affaires. Et pour cause, si les travailleurs avaient accès à toutes ces comptabilités, ils mesureraient les escroqueries patronales. En levant le secret bancaire et commercial, on permettrait à tous les travailleurs de communiquer les informations qu'ils ont, qu'ils soient comptables, secrétaires, ouvriers. Beaucoup pourraient tirer la sonnette d'alarme. Alors il faut donner les moyens légaux de tout dire sans être menacé de licenciement. Il faut supprimer le secret des affaires. Et cette mesure est un objectif essentiel, car il modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs en donnant de nouvelles armes aux travailleurs. Il en serait fini du chantage patronal et des fausses informations. Les salariés sauraient à quoi s'en tenir. Ils pourraient anticiper, s'organiser face aux attaques patronales et prendre l'initiative pour se défendre. Voilà notre programme. Ce n'est pas, comme tous les autres candidats, un catalogue de promesses qui seront aussi vite bafouées qu'elles ont été inventées. C'est un programme qui doit nous orienter pour nos combats quotidiens. C'est un programme de survie pour les couches populaires qui découlent de nos besoins. Parce que contrairement aux autres candidats, nous ne cherchons pas à épargner la bourgeoisie et ses profits. Nous la combattons et nous sommes prêts à la combattre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'expropriation en réquisitionnant les grandes entreprises. Parce que, contrairement aux autres candidats, nous ne considérons pas la compétitivité, le marché, la concurrence comme des lois naturelles, mais comme les bases d'un système établi par une minorité et qui ne fonctionne que pour cette minorité. Et si nous défendons ces intérêts vitaux pour le monde du travail, c'est parce que nous sommes communistes. À la gauche de la gauche, le vote pour Mélenchon n'a absolument pas la même signification que le vote en faveur de Nathalie Arthaud. Mélenchon a lancé le mouvement de la France insoumise. Il se place donc du point de vue de la France et d'un point de vue nationaliste. Et même si dans certains de ses meetings, il parle de la classe ouvrière, ce n'est qu'une petite musique plaisante aux oreilles. En réalité, cela ne découle que sur peu d'engagement, tant qu'il ne nous dit pas comment on imposera au grand capital qui décide aujourd'hui de tout. Si l'on ne se dit pas prêt à arracher ce pouvoir à la minorité capitaliste, on ne parle pour rien dire. C'est bien beau de dénoncer la finance, Hollande l'avait fait superbement en son temps, mais il faut dire si on est prêt ou pas à la renverser. Mélenchon se dit prêt à changer la Constitution, les traités européens, mais pas à renverser le pouvoir de la bourgeoisie, pas la propriété privée des moyens de production. S'il y a quelque chose qu'il ne remet jamais en cause, c'est bien le pouvoir du grand patronat. Devant ce pouvoir-là, l'insoumis Mélenchon s'incline respectueusement. Avec d'autres, y compris avec Le Pen et Montebourg, Mélenchon se veut le champion du souverainisme et de l'indépendance de la France. En renégociant ou en sortant de l'Union européenne et de l'OTAN, nous redeviendrons souverains. Le pouvoir reviendrait au peuple, nous dit-il. Ce sont des mots en l'air. Les seuls souverains dans cette société, aujourd'hui, ce sont les capitalistes, les Michelin, les Bettencourt, les Bernard Arnault, la famille Peugeot et quelques-uns d'autres. Quand on est exploité, on est souverain de rien du tout. Et que les lois soient décidées en France, dans une 5e ou dans une 6e République ou à l'échelle de l'Europe, cela n'y change rien. On est dépendant de cette classe qui possède les capitaux, qui a le pouvoir de nous embaucher ou pas, de nous verser un salaire ou pas, de nous fixer nos horaires. On est dépendant de tout. Parler de souveraineté, c'est encore une façon de brouiller les consciences et de les détourner de leur combat de classe. Alors laissons ces mots d'ordre de souveraineté du peuple ou de la France aux partisans de la bourgeoisie et reprenons les objectifs qui ont toujours été celui du mouvement ouvrier, l'émancipation des travailleurs, l'émancipation des exploités à l'échelle de la planète. Mélenchon fera plus de voix que Nathalie Arthaud parce qu'il est compatible avec le système, parce qu'avec lui, tous ceux qui cherchent un raccourci en dehors des luttes en cherchant à se raccrocher une énième fois à un sauveur suprême ne pourront qu'être déçus. Les voix qui se porteront sur Mélenchon ne mêleront nulle part, si ce n'est à de nouvelles désillusions. En revanche, les quelques centaines de milliers de voix qui se porteront sur Nathalie auront contribué à élever la conscience de classe. Elles auront armé politiquement les travailleurs. On ne peut pas, d'un côté, regretter le recul de la conscience ouvrière et renoncer, de l'autre, à affirmer sa propre conscience de classe quand on a l'occasion. Oui, le monde ouvrier a besoin de repères politiques et d'une boussole. Et à l'inverse de Mélenchon et de son mouvement qui n'existe que pour porter sa candidature à la présidentielle, notre campagne et l'utilité du vote pour faire entendre le camp des travailleurs ne sera pas éphémère. Car après les élections, notre combat pour construire politiquement le camp des travailleurs continuera et tout ce que nous avons réussi à construire lors de cette campagne le renforcera. Bien sûr, vous allez me dire, voter, ce n'est pas encore agir, se battre réellement. Mais le combat commence dans les têtes. On ne peut pas se lancer dans le combat sans être sûr de sa légitimité. On ne peut pas gagner sans être sûr de nos intérêts, sans comprendre où sont nos ennemis, où sont nos faux amis. Tout cela se forge dans le combat des idées et dans le combat politique. Eh bien, le premier tour de ces élections nous donne l'occasion d'avancer dans ce sens-là, alors il faut y aller. Les travailleurs n'ont pas encore de parti à opposer à la bourgeoisie. En tout cas, pas de parti capable de mener le combat politique à armes égales avec les partis bourgeois. Et c'est tout le problème. Si les conditions d'existence des travailleurs reculent depuis des décennies, s'ils sont désorientés, si la confusion règne dans beaucoup de têtes, c'est qu'il n'y a plus de parti ouvrier digne de ce nom depuis longtemps dans ce pays. Le vote pour Nathalie Arthaud permettra, le temps d'une élection, de faire apparaître les travailleurs comme une force politique, comme un camp politique. Mais il faut qu'ils se maintiennent après les élections. Car les travailleurs n'ont pas simplement besoin d'exprimer leur intérêt au moment des élections, ils ont besoin de mener un combat en permanence, au quotidien, dans les entreprises, en permanence contre la politique anti-ouvrière du patronat relayée par les gouvernements. Il faut un parti qui affirme que la société est divisée en deux classes aux intérêts irréconciliables et que nous devons nous battre en ne comptant que sur nos forces. Un parti qui affirmera que les travailleurs peuvent se passer du grand capital parce que ce sont eux qui font tout tourner dans la société. Voter, ce n'est pas encore construire un parti, mais c'est déjà se rassembler derrière un drapeau. Et d'élection en élection, de mouvement de grève en manifestation, cela participe à la construction de ce parti. Alors aidez-nous à le construire et à construire ce parti pour un travailleur. Car malgré toutes les trahisons subies, il faut que le mouvement ouvrier retrouve confiance en lui-même. Appartenir au monde du travail ne doit plus être synonyme de victime. Appartenir au monde du travail doit être un motif de fierté. La bourgeoisie, les actionnaires et les PDG qui prétendent être la clé de voûte ne sont rien sans nous. À quoi pourraient servir les milliards des Arnaud, des Muliez si nous ne faisions plus tourner leur entreprise? Nous représentons une force sociale qui a prouvé à bien des reprises dans le passé qu'elle n'était pas vouée qu'à subir, mais qu'elle pouvait se battre. Et pour l'avenir, les travailleurs sont les seuls à pouvoir impulser une société débarrassée de l'exploitation, du capitalisme, de ses crises et de ses guerres. Le capitalisme n'ôte pas simplement aux opprimés les moyens de vivre. Il pousse toute la société à la déchéance morale. Regardez comment les migrants sont traités. Aujourd'hui, la justice a même inventé un nouveau crime, le crime d'humanité, avec des poursuites engagées contre ceux qui ont donné à manger et un toit aux migrants dans la vallée de la Roya. La société s'enfonce dans la barbarie. Quand ce n'est pas la barbarie des bombardements ou du terrorisme, c'est la barbarie des murs, des barbelés que l'on oppose aux centaines de milliers de femmes et d'hommes qui fuient l'enfer. Et là-dessus, les principes... Et là-dessus, Les principaux candidats sont d'accord. Il faut des frontières de plus en plus étanches, nous disent-ils. Et de nous répéter en boucle, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais ce n'est pas la misère pour tout le monde. Dans les beaux quartiers, l'argent coule à flot. L'argent gaspillé dans la spéculation se compte par dizaines de milliards. Et l'on ne pourrait rien faire contre la misère. Ils se servent même des drames des migrants pour nous prêcher la résignation. Quand ils nous disent « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde », c'est exactement comme ils nous disent « on ne peut pas assurer un travail à tout le monde ». On ne peut plus espérer partir à la retraite à 60 ou 62 ans. Mais la misère, c'est eux qui la fabriquent. Ils la fabriquent en Syrie par leurs bombes, ils la fabriquent ici par le chômage et la précarité. Alors dans ces élections, montrons qu'il y a des travailleurs qui ne se trompent pas d'ennemis. Nous ne sommes tous des migrants potentiels. Affirmons que les travailleurs n'ont pas à se battre entre eux pour partager la misère. Affirmons que tous les opprimés de la terre, affirmons que pour tous les opprimés de cette terre, la liberté de circulation et d'installation. Ce sont toutes ces idées que nous allons avoir à défendre dans ces élections, même si nous savons bien qu'au lendemain de l'élection, rien n'aura changé pour nous. Nous irons au travail, pointés à Pôle emploi, on se retrouvera confrontés aux mêmes patrons, aux mêmes actionnaires invisibles mais tout-puissants, on se retrouvera confrontés à cet État qui déroule le tapis pour les plus riches. Rien de fondamental n'aura changé, parce que ces élections ne changeront pas cet ordre social dominé par l'argent et la bourgeoisie. La seule nouveauté, c'est que le personnel politique aura changé et que les riches auront un nouveau président de la République à leur disposition. Changer de président, c'est comme changer de chef de service. La tête et le style changent parfois, mais l'exploitation reste la même. Cela, beaucoup de travailleurs le savent, parce que d'élection en élection, ils en font l'expérience. Mais faute de lutte sociale d'ampleur, toute la vie politique se résume à ces élections. Chaque campagne électorale donne lieu à un spectacle où, jour après jour, les politiciens nous jouent la comédie du changement. Et la machine à fabriquer les élections, la machine à fabriquer les illusions électoralistes repart. C'est ainsi que les électeurs sont pressés de voter utile, d'essayer quelqu'un qui n'a jamais gouverné, ou de voter pour le moins pire. Mais il n'y aura pas de moins pire pour le monde ouvrier s'il ne se bat pas collectivement. Et encore une fois, ne craignons pas d'être minoritaires. À quoi sert-il de voter avec la majorité quand cela conduit à élire un adversaire ? Aujourd'hui, combien de travailleurs se mordent les doigts d'avoir voté Hollande en 2012 et il faudra recommencer avec un autre. Quant à s'abstenir, ce n'est pas une preuve de conscience ou de radicalisme. C'est déserter. Si nous ne nous défendons pas nos idées, qui le fera ? Personne ne mènera le combat à notre place. Parfois, les travailleurs, il est vrai, ne trouvent pas le moyen de se battre, de faire grève, de manifester. Parce que quand on est seul ou qu'on n'a pas le rapport de force et qu'il est trop défavorable, mais voter, s'exprimer dans l'urne est un geste à la portée de tous. C'est une question de conscience, de courage de ses idées. Il n'y a pas de petits combats, pas de petits gestes. Quand on est minoritaire, la moindre voix compte et peut porter. Nous sommes à contre-courant. Mais quand le courant pousse dans une direction aussi réactionnaire, aussi barbare, quand le courant pousse à la résignation, oui, nous sommes fiers d'être à contre-courant. Nous savons que les médias ne nous donneront que très peu la parole et qu'à travers eux, on ne pourra convaincre que des convaincus. Mais ce n'est pas rien, parce qu'une campagne relayée au niveau national permet de s'adresser à des millions de travailleurs. Et parmi ces millions, il y en a plusieurs milliers qui partagent ces idées. La candidature de Nathalie leur permettra de rompre leur isolement et de se rallier à leur camp, et c'est déjà quelque chose d'important. Mais nous pouvons faire plus en discutant autour de nous, avec tous ceux qui se posent des questions, qui sont perdus, qui s'interrogent. Ils sont dans notre famille, ce sont des amis, des voisins, des collègues de travail. Nous tous, nous pouvons les toucher. Car au-delà du résultat de ces élections, ce qui comptera, c'est d'avoir fait avancer les idées parmi les nôtres. Le simple fait d'avoir affirmé nos convictions, d'avoir fait réfléchir, est important. Pour que ce soit une bonne campagne, il faut que ce soit une campagne militante, votre campagne. Nous sommes une petite organisation. Mais les idées que nous portons sont au-delà de nous, car elles sont inscrites dans le fonctionnement de la société. Elles reflètent la lutte de classe à laquelle les millions de travailleurs sont confrontés. Et tôt ou tard, ils rechercheront ces idées. Et rien qu'aujourd'hui, nombre de gens sont suffisamment en colère pour chercher à exprimer un mécontentement. Mais le mécontentement qui s'exprimera sur notre candidature aura un caractère de classe. Il ne servira pas de tremplin à un arriviste, il ne sera pas déformé, il sera sans ambiguïté. Ce sera un vote de rejet de tous ces politiciens prêts à servir la soupe à la bourgeoisie. Ce sera un vote qui affirmera les intérêts et les perspectives du monde du travail. Ce sera un vote qui affirmera que, quel que soit l'élu en 2017, nous savons que nous serons attaqués et que nous ne laisserons pas faire. Ce sera un vote de dignité, de combativité et de conscience ouvrière pour affirmer que la société peut se passer de la bourgeoisie, mais pas des travailleurs qui font tourner tout et produisent toutes les richesses.